pour vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance en ce samedi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors en ce samedi, en ces jours mi-morose, mi-chaleur, on a eu envie de devenir des magiciennes et des magiciens d'Oz. Et comme on a eu envie avec Irène d'être des magiciens et des magiciennes d'Oz, on a eu envie de vous éclairer au sujet de la ménope Oz. Et pour vous parler, vous éclairer, chers amis auditeurs, sur cette question hautement importante, tout autant pour les hommes que pour les femmes, on a la spécialiste française qui vient exprès nous parler de ça. On a cette chance, Pascaline Lemoseau. Bonjour Pascaline.
Bonjour Christophe.
Et évidemment, co-animant cette émission, ma fidèle co-animatrice Irène Cazenave. Bonjour Irène.
Bonjour.
Voilà, à la réalisation, le grand, le beau, l'unique Julien. Vous savez que c'est une émission interactive, vous pouvez appeler Dynamique Radio et Pour vivre heureux, vivons Cotier. Nous sommes là pendant les deux heures pour vous, pour répondre à tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur la ménopause, sans jamais avoir osé de le demander. On est parti, on est avec vous. Pascaline, rebonjour.
Rebonjour.
Pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait de votre vie?
Voilà, c'est long ça.
Vous avez trois heures, vous avez trois jours.
Alors, on va commencer plus récemment, on va dire. Donc, moi, j'accompagne spécifiquement les femmes à préparer à traverser la périménopause. Donc, c'est ce grand passage qui dure à peu près 10 ans, entre 40 et 55. Et je suis naturopathe, praticienne de shiatsu et auteur du livre donc Ménopause Métamorphose. J'ai également un podcast qui s'appelle Au cœur de la femme, où j'aborde tous les sujets en lien avec la ménopause.
Alors, chers amis auditeurs, Pascaline, effectivement, Lombroso commet ce livre qui a un an, donc un bébé à la mamelle. Hein, il est de février 2023 chez Hachette, Ménopause Métamorphose. Et immédiatement, ce qui m'a plu, ne serait-ce que dans la couverture, Pascaline, c'est qu'il y a méno, et évidemment, c'est voulu de la part de l'éditeur, et pause, ménopause, et alors évidemment, un petit jeu de mots métaphorique par rapport à une figure de poésie, une rime, ménopause, métamorphose. Alors, ménopause, est-ce que, ou en quoi, on pourrait demander, Irène, n'est-ce pas, vous avez peut-être cette question à poser là-dessus d'emblée à Pascaline, est-ce que la ménopause est une métamorphose?
Oui, ça peut être une question, mais comment on peut justement voir la ménopause comme une métamorphose? Parce que c'est ce que vous proposez et qu'on a, j'ai envie de dire, hélas, c'est un parti pris, pas tellement l'habitude de voir.
C'est même, pour ainsi dire, jamais l'habitude de voir. La ménopause, elle est rangée au placard, de la même manière que les femmes à partir de 50 ans. On invisibilise tout le monde et donc on invisibilise la ménopause. Parce que dans notre société, c'est très corrélé en fait à l'idée de vieillissement, à l'idée d'inconfort. Et c'est cantonné, j'ai envie de dire, c'est un peu réservé au monde médical en fait, la ménopause.
Allez-y.
Alors que c'est un processus naturel, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le soutenir s'il y a besoin. Mais en revanche, moi j'ai adoré, c'est ce qui m'a animée, parce que la ménopause, elle ne m'est pas tombée dessus comme ça. Je l'ai préparée depuis l'âge de mes 40 ans, parce que j'avais eu cette notion de l'énergétique chinoise qui parle du deuxième printemps pour parler de la ménopause.
Alors ça, c'est une très belle image, Irène.
Oui,
le deuxième printemps.
Il y a cette question du deuxième printemps et il y a aussi cette notion de préparer la ménopause dont on ne parle pas, alors qu'on sait que ça va arriver un jour, même si on ne sait pas tout à fait quand. C'est cette notion aussi de comment... Alors, le livre y répond, mais comment on peut préparer, même psychologiquement, peut-être un ou deux trucs pour préparer la ménopause?
Pascaline Lombroso.
Le premier truc, c'est déjà de repérer comment la société maltraite ce sujet, de manière à faire évoluer nos perceptions au sujet de la ménopause. Et ça, c'est fondamental, parce que tant que nous serons réduites en fait à ces inconforts ou réduites à un potentiel vieillissement qui arriverait tout de suite, eh bien évidemment, ça ne donne pas du tout envie d'aller vers ce passage. Donc pour moi, de tout de suite observer.
Oui, observer
et,
quoi?
Voilà. Et pour moi, tout de suite, d'observer les, j'ai envie de dire, les maltraitances médiatiques qui sont faites aux femmes par le biais de la ménopause, nous permet déjà d'en prendre conscience, de voir les effets qu'elles ont sur nous, et puis ensuite de modifier, de défaire évoluer nos perceptions à ce sujet.
Alors, c'est justement ce qu'on propose aux auditeurs, parce qu'elle est tout au long de cette émission. Je suppose qu'il y a, comme pour tout sujet, beaucoup d'ignorance. Hein, et on est là justement, puisque j'adore cette phrase de Voltaire, « Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres hein, ». C'est une très belle phrase du siècle des Lumières. Vous êtes certainement très nombreux à vouloir, et nombreuses surtout, à poser des questions à Pascaline Lombroso. On est là pour vous. Restez avec nous, ça va être passionnant, on va aussi parler de son livre.
Je cherche un homme de 50 ans qui a tout rêvé, qui a tout perdu, qui s'en est juste assez voulu pour savoir ce qu'il veut vraiment. Je cherche un homme de 50 ans qui a déjà tout dû, tout rendu, qui a refait juste assez d'argent, mais que l'argent n'éblouit plus. Je cherche un homme de 50 ans qui a déjà plu, déjà déçu, et qui a fait juste assez d'enfants pour être juste assez ému. Je cherche un homme qui a survécu, qui a déjà tout fumé, tout bu, qui a tout connu, des femmes nues, un homme qui ne cherche plus. Je cherche un homme de 50 ans qui sait ce qu'il n'a pas à offrir, qui a plus de passé que d'avenir, mais qui enfin prend tout son temps. Je cherche un homme de 50 ans qui est déjà préparé au pire, qui sait ce que le temps peut pas guérir, qui a déjà vu trop d'enterrements. Je cherche un homme de 50 ans que la vérité ne fait plus fuir, qui a le courage de ne pas mentir sur ses foutus de sentiments. Oui, un monsieur de 50 ans qui ne se prend plus au sérieux, mais qui silencieusement et qui le ferait de son mieux. Je cherche un homme pas trop solide, parce que personne ne l'est jamais, un qui aurait juste assez de rire et presque plus de secret. Je cherche un homme comme il y en a plein, mais je ne les croise jamais, un qui ressemble à mon chagrin et qui peut-être m'attendrait. Mais enfin, un qui serait le mien, peut-être pas pour toute la vie, et pour quelques moments, c'est vrai, qu'au moins j'aurais pas le cœur détruit chaque fois que je m'en souviendrai.
La grande Linda Lemay qui nous dit qu'elle cherche un homme, la grande Linda Lemay qui dit qu'elle cherche un homme de 50 ans. Eh bien oui, on peut aussi chercher des femmes de 50 ans, mais on verra certainement, chers auditeurs, qu'on peut avoir la ménopause, bien avant 50 ans. Vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir parler à Pascaline. On a un premier Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Sandra.
Oui, bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio pendant Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Vous savez que donc, notre invitée est Pascaline Lombroso, spécialiste de la ménopause. Hein.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser de comme question ? Peut-être avez-vous aussi, vous, une expérience vis-à-vis de la ménopause ? Racontez-nous, on vous écoute, Sandra.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai été ménopausée très, très jeune.
Hein, c'est-à-dire
enfin,
à quel
38
âge ?
Ans, je crois que 38 ans, je crois
ah,
que
oui.
C'est considéré comme jeune. Et j'aurais en fait voulu savoir dans quelle mesure un choc émotionnel peut suffire à déclencher une ménopause précoce.
Très intéressant.
Parce que moi, c'est vraiment la question que je me pose. Voilà.
Ça vous est arrivé, vous, il y a eu un gros choc émotionnel à ce moment-là ?
C'est ça.
D'accord.
C'est
okay.
Ça.
Alors, Pascaline Lombroso, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Sandra à ce sujet-là ?
Eh bien, c'est tout à fait normal puisque le système hormonal est très sous l'influence du système nerveux. Donc, dès lors qu'il y a un système nerveux qui va être tendu, où il va y avoir un choc, où il va y avoir un trauma, eh bien, ça peut complètement créer comme ça un dysfonctionnement, une dérégulation du système hormonal et pourquoi pas créer des ménopauses précoces. Évidemment, ce n'est pas le cas chez tout le monde, donc c'est aussi un terrain qui est déjà là peut-être. Mais effectivement... Oui,
pardon. On vous écoute, oui. Sandra.
Ce qui m'avait surpris, c'était le fait que mon propre gynécologue me disait que ce n'était pas possible, que 38 ans, c'était bien trop jeune et que ce n'était juste pas possible.
Pascaline, un gynécologue qui ne croit pas sa patiente. Oui, parce que les gynécologues, peut-être eux-mêmes, ont besoin d'être éclairés. Certains, en tout cas.
Oui, parce que effectivement, la ménopause n'est pas censée arriver à 38 ans. Donc... malheureusement, c'est vrai que parfois les médecins, et ce n'est pas de leur faute, n'ont pas le temps d'écouter leur patiente. Et puis, ne savent pas quoi faire finalement. Ils ne savent pas quoi faire avec cette ménopause qui arrive là maintenant. Donc oui, je suis vraiment désolée que d'abord le médecin ne vous ait pas cru, n'ait pas pris le temps de vous écouter.
Ah non, mais je m'en suis remise, hein, y a pas de problème, oui, mais vrai que ça m'a surprise quand même.
Disons que c'est rajouté au choc qui est déjà là.
Alors c'est ça que je voulais vous demander, vous employez le terme choc, et ça j'ai vraiment envie de vous demander, vous qui commettez ce très bon livre, très éclairant, on en parlera au fil de l'émission, hein, mais pour certaines femmes, alors plus ça arrive jeune, ça peut être, vous employez le terme, hein, parce qu'un choc, c'est un moment difficile au début à passer, peut-être qu'il y a aussi l'idée... Bon, après, une femme, elle a été longtemps faite pour avoir des enfants, on est d'accord. Elle en a fait ou pas, d'ailleurs. Peut-être qu'on ne vit pas sa ménopause de la même façon si on en a fait ou si on n'en a pas fait. Ça, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Mais Sandra emploie à dessein le terme de choc. Alors, pour beaucoup de femmes, c'est un choc. Pour certaines femmes, c'est un choc, la ménopause.
Oui, parce que je trouve que dans la société, nous sommes encore vraiment avec cette idée de la jeunesse éternelle. Et que forcément, lorsque nous arrivons à la ménopause, c'est notre deuxième partie de vie. Donc forcément, nous avançons en âge. Et plutôt, on va avoir fait le deuil de cette illusion de la jeunesse éternelle. Et mieux, nous passerons cette avancée en âge. Et donc, pour beaucoup de femmes qui s'identifient aux images qui sont affichées dans la rue ou qui s'identifient encore à ce que, j'ai envie de dire... le système patriarcal moule pour les femmes, donc des corps jeunes, des femmes fécondes. Eh bien oui, ça peut être un choc parce que le corps change, mais il change pour tout le monde dès lors que l'on avance en âge en même temps.
Irène Cazenave, vous qui êtes hypnothérapeute, vous recevez parfois des femmes qui, arrivées à la ménopause, ont encore plus besoin de thérapie parce que c'est choquant pour elles, elles sont mal, Irène Cazenave.
Alors... pas forcément parce que c'est choquant, mais ça peut aussi être mal vécu parce que ça renvoie à des enjeux d'estime de soi. D'ailleurs, vous parliez dans votre livre d'un phénomène d'amplification avec la ménopause où ça amplifie des j'ai envie de dire des problématiques qui n'ont pas été peut-être suffisamment travaillées en amont, et notamment les enjeux d'estime de soi, d'avoir peur de plus plaire, de plus être ce que l'autre attend ou ce genre de choses.
Ça vous parle comment, Sandra, vous qui avez donc, alors pour le coup, été ménopausée à la trentaine, ce qui à mon avis, évidemment, en statistique, ne doit pas être non plus la majorité des femmes ménopausées, on est d'accord. Est-ce que ça a été pour vous quelque chose qui vous a gêné sur différents plans? Expliquez-nous.
Moi, ça a été un vrai bonheur, je vous dirais.
Expliquez.
Moi, j'ai été complètement ménopausée à l'âge de 46 ans.
Oui.
Attendez,
je comprends. 38, 46, c'est-à-dire qu'il y a tout un process, si je crois comprendre ça.
Voilà, c'est ça. Le process a commencé à 38 ans.
D'accord.
Et puis, ça s'est fait vraiment terminé à 46. Et moi, je l'ai très, très bien vécu. Franchement, aujourd'hui, je suis à 50 ans... hyper épanouie. Donc pas de choc de ce point de vue-là.
D'accord. Vous dites, Pascaline, au début du livre, dans les premiers chapitres, que même, j'aime bien cette image, hein, de passer à la ménopause, ça pourrait être l'occasion de renaître à soi. Hein,
ah oui, tout à fait.
En quoi ça peut être l'occasion de renaître à soi, Pascaline Lombroso?
Eh bien, déjà, je trouve que nous n'avons plus à être fécondes pour l'humanité et que nous avons à mettre cette fécondité à notre service. Et puis, les Chinois disent vraiment que l'énergie est redirigée vers soi au moment de la ménopause. Il faut savoir que l'on ait des enfants ou pas, on passe quand même beaucoup de temps en tant que femme, finalement, à être au service des autres. Et là, à la ménopause, on se met au service de soi, au service de nos projets, au service de nos rêves. Et pour moi, c'est en ça qu'il y a un second souffle à saisir au moment de la ménopause. Et puis, on est aussi beaucoup délesté du jugement des autres. Parce que plus on avance en âge et plus finalement on peut s'affranchir de ce qui est attendu de nous. Et c'est en ça que c'est libérateur.
C'est très beau ce que vous dites, Pascaline. Je donnerai la parole à Irène dans quelques secondes. Je mettrai quand même je rajouterai quelque chose par rapport à ça. On l'est que si on fait un travail sur soi, un peu comme on dit toujours dans la vie, chers amis auditeurs, c'est pas ce qu'on vit dans la vie, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Et effectivement, je le disais en conférence au salon de Nîmes samedi, vieillir, c'est naturel. Tout être humain vieillit, mais grandir, ça ne l'est pas. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec l'idée que toute personne qui devienne vieux, de plus en plus vieux, soit forcément quelqu'un de meilleur qu'un jeune. C'est pas vrai. T'as des vieux cons, comme dirait la chanson de Brassens, sont plus cons que les jeunes cons. Parce que grandir nécessite un travail. Et là, vous, ce qui est phénoménal avec votre livre, et ça, c'est bien, c'est que c'est justement s'emparer de ce moment de la ménopause, mais d'y réfléchir. Et il est très holistique, vous allez voir, chers amis auditeurs, et c'est pour ça qu'il est très beau son livre chez Hachette, à Pascaline, parce que justement, qu'est-ce que j'en fais de ma ménopause ? Irène Cazenave, qu'est-ce que vous en pensez ?
Complètement, il y a cette question de se réapproprier aussi quelque chose qui est de façon plus large. Tout le travail qu'on fait en développement personnel, c'est qu'à un moment, on nous a inculqué des choses à travers l'éducation, à travers la société. C'est un moment de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord ou pas d'accord ? Et autour de ce qui est véhiculé, le conditionnement autour des femmes où effectivement il faut être j'ai envie de dire jeune, docile, soumise, etc. Il y a un moment où en tant que femme, à un moment on se dit j'ai de l'expérience, j'ai peut-être envie de projeter autre chose.
Pascaline.
Oui, on a aussi envie de sortir du moule dans lequel nous-mêmes nous sommes mises, sans le savoir, de manière inconsciente, et puis qui arrange forcément notre entourage. Et moi, ça a été vraiment ça, c'est-à-dire qu'à l'âge de 40 ans, j'ai senti que le moule était trop étroit, quoi, que j'avais envie de pousser les murs et d'avoir envie d'explorer autre chose. Et en fait, je crois que ça a été vraiment cette phrase que j'ai entendue d'une de mes enseignantes, qui a été « Mesdames, la ménopause ne vous tombe pas dessus comme ça, elle se prépare 10 ans avant ». Et moi, ça a été un déclic pour moi, parce que mon cycle menstruel, je le subissais, mais je le subissais sans rien dire, puisqu'il ne faut pas se plaindre, n'est-ce pas ? Lorsqu'on est une femme, normalement, c'est mieux. Et donc là, je me suis dit « Mais en fait, la ménopause, c'est la fin des menstruations ». Donc pour moi, c'était vraiment déjà... J'avais ça en...
C'était vivement la ménopause,
mais oui,
ou alors ?
Mais réellement, c'est-à-dire je me disais, ouf quoi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour la passer au mieux ? Pour la passer avec plus de confiance.
Et ça vous a donné un livre, en plus.
Ça
en
m'a
plus,
donné
ça
un livre.
Ça vous a permis de
après...
faire naître un... Vous avez combien d'enfants en vrai, Pascaline ?
Deux.
Deux plus un, trois.
C'est
moi,
ça.
J'en ai 20, chers amis auditeurs. Eh oui, plus deux. Non, plus un. Ouais, enfin, 20. Et mes enfants. comment ça vous fait écho tout ça, Sandra ? Ça vous a parlé, tout ce qu'ont dit toutes nos expertes ?
Ah, absolument, oui. Une liberté. Liberté délivrée.
Liberté délivrée, ça fait penser que vous êtes la reine des neiges, vous.
C'est ça.
Bon, on vous embrasse, Sandra.
Hein ? Merci à vous.
Vous appeliez de quelle région, de quel coin ?
J'habite Amiens.
Ah, très belle ville. La ville de notre président de la République, dites donc.
Entre autres. Hein,
et puis la ville où il y a une cathédrale qui a le plus haut dôme d'Europe, n'est-ce pas ?
C'est
oui.
Ça.
Souvenir de ma cagne histoire, de mes premières amours en histoire. On vous embrasse.
Exactement.
Sandra, merci d'être fidèle à Pour Vivre Heureux,
vos
coachés. À très bientôt.
Au revoir.
À bientôt, au revoir. Au revoir.
Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gaie comme un Italien quand il est seul. Il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie ressemblait un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gay comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Une femme avec toi.
La grande, l'immense Nicole Croisi qui nous chante cette chanson magnifique, Femme avec toi. L'histoire raconte qu'elle parlait de son amant Jacques Brel dans cette chanson. Et écoute, on trouve que cet homme qui est gay comme un Italien, quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions en termes de ménopause à Pascaline Omozo et à nous-mêmes. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, radio coachée.
Bonjour Laurence.
Bonjour, bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés.
Merci.
Vous savez que notre invité central, c'est Pascaline Lombroso, qui nous offre ce livre Ménopause, Métamorphose chez Hachette, n'est-ce pas, hein ? Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Pascaline ?
Alors, je suis ravie que vous me receviez aujourd'hui. Alors, Pascaline, j'aimerais que vous puissiez, moi, en tant que coach en empowerment au féminin, j'accompagne les femmes en milieu de vie à se reconnecter à leurs projets, à leurs envies profondes. Et c'est vrai que le sujet de la ménopause, c'est souvent abordé comme une sorte de fatalité, hein, avec fatalisme, j'ai envie de dire. Et très souvent, c'est abordé comme une fin, comme si c'était foutu pour foutu, qu'il n'y a plus rien à faire. J'aimerais vous entendre sur votre vision de ce passage de la vie de nombreuses femmes, ce passage de la ménopause en milieu de vie.
Pascaline Lombroso.
Eh bien, moi, j'aimerais dire que la ménopause, elle est à voir comme une dynamique, en fait. C'est un changement de dynamique. Donc, c'est vrai que si on conçoit la ménopause au travers du corps qui évolue, ça peut être difficile pour certaines femmes. En revanche, si on voit la ménopause au travers de toute l'expérience de vie que nous avons et toute l'expérience qui nous attend, eh bien on comprend qu'il y a un changement de dynamique, c'est un processus qui évolue. Et à ce moment-là, ça donne quelque chose de complètement différent. On n'est plus figé dans ce qui a été, avec la peur de ce qui sera. On décide que c'est un passage, qu'on peut s'y engouffrer. Et moi, je trouve que ce qui est important, c'est aussi de se reconnecter à son propre corps. Tout simplement parce que c'est par le corps que ça passe, et de se reconnecter à son corps, au-delà du corps qui vieillit, mais de ce merveilleux fonctionnement, en fait. Ça donne aussi une autre vision de ce qu'est notre corps. On peut considérer qu'il ne nous trahit pas, mais bien au contraire, qu'il continue de nous accompagner sur ce chemin de vie.
Ça vous parle comment, ça, tout ça, Laurence ?
Je trouve que c'est très puissant, cette idée de reconnexion au corps, et justement, que ce n'est pas figé, que ce n'est pas parce qu'on passe sur un autre état, en effet, que c'est fini. c'est juste un autre cycle. J'aime beaucoup cette idée de, en effet, de la dynamique, que c'est une autre dynamique, que c'est quelque chose de différent. On met du « et ». C'est pas où je suis une femme avant la ménopause ou après. J'entends quelque chose de l'ordre du « et ».
Irène Cazenave, par rapport à ça, elle nous parle du « et », ce qui est un discours très coach, très West Coast, que bon, je connais très bien aussi, mais du « et » pas du « où ». Mais l'idée aussi qu'effectivement, il y a des femmes, on l'a vu avant, une autre auditrice qui avait appelé avant l'horoscope, certaines le vivent comme un trauma, sont surprises et tout. Cette idée de dynamique, ça vous parle, Irène ? Il y a cette idée dans la vie qu'on est très bien quand on sent que tout est une traversée, n'est-ce pas ? On traverse les choses. Donc, un peu comme une personne en dépression, on lui dit « soyez pas stock », comme diraient les Anglais.
Oui. Hein,
tanker. Ça vous parle comment, Irène Cazenave ?
Ça me parle de vraiment se réapproprier aussi cette idée de cycle où, effectivement, la ménopause arrive, mais on en reparlera avec Pascaline Lombroso. Il y a un moment où on va dire « voilà, je suis ménopausée », mais il y a tout l'avant où les cycles commencent à se déréguler, etc. Donc, il y a effectivement ce processus, et c'est comment aussi il est vécu, ce processus. La problématique, c'est pas forcément le processus en lui-même, c'est comment on l'envisage. Il y a beaucoup de femmes qui envisagent aussi, et tout à l'heure l'auditrice le disait, la ménopause comme une libération, parce qu'il n'y a plus d'enjeu de maternité, parce que la sexualité, ça peut être que du plaisir sans enjeu. Moi, j'entends aussi beaucoup ce discours-là.
Une libération. Pascaline Lombroso.
Moi, j'aime bien être très attentive aux mots que nous utilisons pour nous définir. Et si je peux me permettre de rebondir, Irène, vous disiez, vous avez dit « je suis ménopausée », enfin, quelque chose comme ça. En fait, sans parler de vous, mais en parlant de la précédente auditrice, et en fait, moi, je dis jamais que je suis ménopausée parce que c'est comme si l'état, il durait encore. Moi, j'ai été ménopausée à l'âge de 48 ans. Et maintenant, j'en ai 53 et je continue d'avancer sur mon chemin. J'ai envie de dire que je ne suis pas ménopausée jusqu'à la fin de mes jours. Dans cette idée que c'est une dynamique et que ce n'est pas un état dans lequel je me fige. Et donc, je trouve que...
Vous voulez dire que la ménopause, c'est derrière vous, quoi.
C'est derrière
c'est
moi
digéré.
En tant qu'arrêt de la fonctionnalité.
Non, mais même, ça a été une traversée, ça a été un passage et le passage est passé.
Et le passage est passé, mais en fait, il n'y a même pas eu de digestion, il y a juste eu des transformations. Et c'est ça qui est important. Parfois, on peut digérer un peu mal, on peut être un peu encombré.
Peut-être, là, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mesdames, parce que je suis le seul homme à parler là, mais je pense que vous le dites vous-même, il faudrait faire des ateliers aux hommes sur la ménopause. Donc, je pense que nous, le genre masculin, on a à voir avec la ménopause aussi, pourquoi nous exclure, n'est-ce pas ? Mais... non pas parce qu'on a un anima jungien qui c'est notre part féminine, mais que nos femmes, elles, quand elles viennent ménopause. Alors, est-ce que, franchement, je suis à côté de la plaque, hein, c'est vous l'experte, hein, mais je vais vous poser une question complètement de béotien, mais volins nolins, il y a la femme qui vit la ménopause alors qu'elle a eu des enfants. Il y a la femme qui vit la ménopause alors qu'elle n'a pas eu d'enfants, mais elle n'avait pas de désir d'enfant. Il y a la femme qui vit la ménopause alors qu'elle avait d'énormes désirs d'enfant et qu'elle n'a pas eu d'enfant. Est-ce que pour cette troisième famille-là, volins-nolins, c'est quand même plus délicat parce que là, c'est l'adieu, quoi. L'adieu.
Oui, l'adieu à la maternité, oui. C'est sûr. Donc oui, bien sûr que ça peut être plus compliqué. Et encore une fois, c'est très individuel. Donc moi, j'accompagne aussi des femmes qui n'ont pas eu d'enfants par choix ou d'autres parce que ça ne s'est pas présenté. C'est vrai que l'arrivée de la ménopause n'est pas vécue du tout de la même manière.
On est d'accord.
Et c'est plus compliqué. Une femme qui avait un désir d'enfant, il y a vraiment un chemin de deuil à faire par rapport à cette maternité pour passer la ménopause au mieux.
Irène Cazenave, ça vous parle ?
Mais bien évidemment, bien évidemment, il y a vraiment cette question aussi, on y revient, d'exacerbation de ce qui est là, ou que ce soit en choix ou pas en choix, en tout cas c'est un fait, et c'est comment on traverse ces différents deuils, puisque c'est un deuil aussi, et comment on peut... le transformer, puisque votre livre parle bien de métamorphose, c'est comment aussi on transforme. C'est pas juste le deuil, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de sa vie, d'accord ? Moi, il n'y a pas de maternité, j'en voulais, et à quoi je donne vie ?
Laurence, On peut se permettre une question un peu implicationnelle? Vous faites partie de quelle catégorie, vous? La première, la deuxième ou troisième catégorie?
Alors,
de femmes?
Moi, j'ai eu des enfants.
Vous avez donc donné vie à des enfants avant. Et est-ce que vous avez vécu la ménopause ou vous l'attendez ou...
Je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'il y a, j'ai envie de dire, en effet, c'est un deuil. Mais moi, je ne l'ai pas vu venir, en fait.
Il y a
vraiment une sorte d'omerta autour de la ménopause. Et je l'ai vécu de manière très violente.
Très violente.
Oui, c'était très violent chez mon médecin généraliste, si je peux me permettre, parce que ça a été très violent quand même, avec toutes les précautions oratoires.
Oui, non mais allez-y, on est là pour justement faire creuser vraiment cette question grâce à Pascaline. Allez-y, c'était violent pour vous, alors c'était violent pour vous, oui.
Oui, absolument, parce que je ne l'ai pas anticipé, je ne l'ai pas vu venir, peut-être que c'est une sorte peut-être de déni aussi, je ne sais pas, peut-être inconsciemment.
Ouais.
Mais toujours est-il que quand mon médecin généraliste a vu les résultats de ma prise de sang sur les marqueurs hormonaux, il m'a dit, texto, il m'a dit, ma pauvre chérie, t'es foutue, ton mari, ben, il ira voir ailleurs.
Oh mon Dieu. Alors ça, vous savez, dans ma méthode haute qualité relationnelle, ce type de comportement, j'appelle ça des comportements de personnes toxiques. Hein, dans mon livre Savoir gérer les personnes toxiques, voyez-vous, Laurence, et ça s'appelle des toxicomes. Vous êtes tombé. J'espère que vous avez changé de médecin à la seconde. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascaline Lombroso? C'est catastrophique de la part d'un soignant de dire une chose pareille.
Oui, d'autant plus qu'un soignant fait autorité. Donc comment ne pas s'approprier la vérité de ce message si on n'a pas un tant soit peu travaillé sur soi et être libre en quelque sorte du chemin de vie que j'ai envie d'emprunter. Donc oui, bien sûr que c'est difficile et c'est même compliqué, c'est même choquant en fait. On devrait dire que c'est choquant.
C'est choquant.
Personne ne devrait asséner une vérité comme ça sur une autre personne, comme si c'était définitif et que...
Et encore plus avec un pouvoir d'autorité.
Oui, c'est ça, un charisme de fonction du médecin.
C'est extrêmement... Voilà, ça fait partie de beaucoup de violences médicales.
Ça fait partie des violences médicales, clairement.
Laurence... Comme tout ce qui nous arrive dans la vie, je parle à une coach, hein, est un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous a aidé à devenir plus riche. On est d'accord? Voilà. J'adore cette phrase magnifique de Claude Lelouch. Je l'offre à tous nos auditeurs. Je remercie tous ceux qui m'ont dit non. Ils m'ont permis de rencontrer ceux qui m'ont dit oui. J'adore cette phrase de Claude Lelouch. Elle est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la gratitude malgré tout dans mon livre « Merci mon amour » de l'année dernière qui a cartonné. Hein, et si la gratitude était le secret des couples heureux. Donc, gratitude à ce connard. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis le mot exprès. Hein, je pèse mes mots. D'accord? Vous témoignez votre gratitude à ce connard. Hein, parce que, chers amis auditeurs, on est bien d'accord ensemble. C'est pas une histoire de statut et de métier d'être un con ou une conne. On peut être quelqu'un avec des hauts diplômes, qu'on veuille ou non, médecin ou autre, et vraiment est quelqu'un à dominante basse qualité relationnelle, comme je l'exprime dans ma méthode depuis 2008. Vous êtes tombé là-dessus, dont acte, ça vous a fait grandir. On est d'accord, Laurence? Ça vous a aidé. Ça vous a aidé.
Ah, mais complètement. Mais oui. Tellement.
On va vous embrasser, Laurence. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous pourrez la réécouter samedi à 12h. Comme ça, vous entendrez bien toute l'émission et tout ce qui a été dit de passionnant de la part de Pascaline Lombroso. Nous ne sommes que la partie aidante. Au revoir, Laurence. Merci.
Merci à vous.
On vous embrasse.
Au revoir.
Et l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillette et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, 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 fais-nous voir l'amour. Femme, 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 sous son meilleur jour. Femme, 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 fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Hey, l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors tes grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée, de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Femme, femme,
femme n'ait pas peur de nous. Femme, 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 on n'est pas voyous. Femme, 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 choisis ton endroit. Nous, on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance. Femme, 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 on n'est que deux amis. Femme, 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 qui se paye un samedi. Femme, 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 fais-nous in the room. Tu préfères youpla, youpla. Champagne et caviar. Femme, 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 ce soir c'est férié. On ne va pas regarder à la dépense. Femme, 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 fais-nous confetti. Alcazar et tout du quanti. Femme, 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 fais-nous in the room. Du prosper, youpla, youpla, boum. Femme, 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 fais-nous Marengo, Luna Park et Monte Carlo.
Ah, l'immense Serge Lama, et on adore Serge Lama. D'abord, il parle des femmes d'une manière avec beaucoup d'amour. Eh bien, écoutez, Pascaline, on va un petit peu égrener votre livre qui, sincèrement, Irène et à moi, nous a passionnés. On l'a adoré. On le conseille vraiment à tous les auditeurs de Pour Vivre Heureux, Yvon Cotier. Vous dites à un moment que la ménopause, c'est peut-être une possibilité pour la femme de déployer sa puissance féminine. J'aime beaucoup l'expression. Vous pouvez développer en quoi c'est une manière de développer sa puissance féminine?
Eh bien, tout simplement parce que je pense que pendant une grande partie de notre première partie de vie, alors moi, ça a été mon expérience puisque j'ai deux enfants, j'ai eu une mère en moi qui était très, très, très présente. Et j'ai beaucoup fonctionné, même dans la reconnaissance, autour de la mère, c'est-à-dire autour de ce que je pouvais déployer, comment je me mettais au service des autres et notamment de ma famille. Et la traversée de la ménopause a été comme quelque chose de très décisif. C'était une décision radicale que j'ai prise à un moment donné où je me suis dit, mais là, stop, en fait. C'est bon, mes enfants, ils sont grands et je n'ai plus à être une mère pour eux, entre guillemets, je suis toujours leur mère.
Pas la même
mais
mère.
J'ai à devenir une mère pour moi-même. Et une mère pour moi-même, ça a été prendre soin de moi, tout d'abord, prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps. Et puis, ça a été ce cheminement vers mon cycle menstruel qui m'a reconnectée à ce qu'il y a de plus profond et de féminin en moi, en fait, puisque le cycle menstruel, il n'y a que les femmes jusqu'à présent qui l'ont. Et ça m'a permis de connaître, de comprendre les différentes qualités d'énergie qu'il pouvait y avoir en fonction des différentes phases du cycle. Et ça, ça m'a connecté à quelque chose de puissant, que j'appelle la puissance féminine, puisque j'ai pu mettre mon cycle menstruel à mon service. C'est-à-dire, je m'en suis servie pour coopérer avec et ne plus le subir.
Irène, la puissance féminine, cette idée qu'on appelait très longtemps, hein, évidemment, heureusement que c'est terminé en 2024, le sexe faible, hein, cette expression horrible, cette puissance féminine, alors qu'on sait évidemment que les femmes sont mille fois, un milliard de fois plus puissantes sur beaucoup de scènes que les hommes sur beaucoup de scènes, c'est très beau ce qu'elle nous décrit, Pascaline Lombroso, hein, cette histoire de la puissance
complètement,
féminine.
Et puis cette notion de coopérer avec, moi je trouve ça très, très juste, de plus être contre, de pas subir, mais de devenir aussi acteur de ce qui se passe et de pouvoir faire avec. Ça revient d'ailleurs assez régulièrement dans votre livre, cette notion de... on parle beaucoup d'acceptation, d'accueil de ce qui est pour... je ne dirais pas l'utiliser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est d'accueillir pour pouvoir déployer sa puissance.
Pascaline.
C'est tout à fait ça. C'est comment je mets à mon propre service ce qui se passe pour moi. C'est vraiment ça. Et quand je parle de puissance féminine, moi je trouve que toutes les femmes sont puissantes au regard de leur histoire. Il n'y a pas des femmes qui seraient moins puissantes que d'autres. Mais en revanche, cette connexion avec ce cycle qui débute à la puberté et qui se termine à la ménopause, il y a quand même quelque chose de profond. Et cette coopération, effectivement, Irène, comme vous le dites, eh bien ça amplifie. Je trouve que ça vient vraiment amplifier toutes nos facettes.
Alors, ce que vous dites sur la puissance me fait penser à son pendant, l'impuissance. Et c'est amusant parce que quand on parle souvent d'impuissance, on parle chez l'homme, quoi. Parce qu'inévitablement, il y a une connotation à la sexualité, chers amis auditeurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est un homme est puissant ou impuissant. C'est très bien qu'il y a des hommes qui ont parfois des difficultés érectiles. Donc, ce qui est pas anodin. Ça peut arriver plus rapidement aux âges où vous, les dames, le plus souvent, hein, vivent la ménopause. Les hommes, eux, peuvent avoir des problèmes de ce qu'on appelle difficulté érectile, n'est-ce pas ? Les femmes à la ménopause... est-ce que ça... Alors, il y a des passages là-dessus, vous lirez, chers amis auditeurs, mais là, on est pendant l'émission. La sexualité, est-ce que ça bouge quelque chose par rapport à la sexualité de certaines femmes, leur désir sexuel, leur...
Oui,
Pascaline Lombroso.
Bien sûr, le fait déjà de ne plus... Enfin, d'être libérée de cette possibilité de la maternité, ça ouvre tout un champ de libération pour la sexualité. Moi, je trouve que vraiment, souvent on dit qu'à la ménopause, ben, ça va être assorti de sécheresse vaginale, de baisse de libido. En fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire la femme, effectivement, au moment de la ménopause ? Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'à la ménopause, moi, je trouve qu'on gagne en puissance et on gagne en liberté sexuelle et en libération. Et l'homme a plutôt tendance à avancer vers ce qu'on appelle l'andropause, et qui là, je trouve qu'elle est moins réjouissante, l'andropause, que la ménopause.
Alors, l'andropause, c'est et votre prochain livre.
Non, certainement pas. Et en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que dans la société, on associe la ménopause à autant d'inconfort ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait couper les femmes comme ça de leur élan ? C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une trajectoire ascendante, moi, je trouve, à la ménopause.
Irène, la sexualité des femmes, vous avez eu des dames en thérapie, en séance, qui vous disaient leur sexualité, qu'un cas, même si on peut...
Oui, alors à plusieurs titres. D'une part, moi, ce qui est revenu assez souvent, c'est cette notion de liberté, où il y a quelque chose qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus accueilli par rapport à la sexualité. Et puis, il y a aussi j'ai envie de dire, désagréments qui vont avec la ménopause. Et d'ailleurs, une personne que j'avais reçue, moi je travaille dans le 93, donc c'est très cosmopolite, me disait que dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus, et qu'il y avait une dame d'Afrique subsaharienne qui lui avait gentiment, je crois que c'était donné de l'huile, du beurre de karité ou de l'huile de coco, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y a quelque chose où ça passe beaucoup plus dans certaines culture de tiens, je te donne ça, comme ça se passera mieux, quoi, de façon beaucoup plus naturelle.
Pascaline, cette histoire d'huile là,
bien sûr, je le dis d'ailleurs dans mon livre, moi je trouve que la sexualité, ça s'entretient au quotidien, ça se cultive, et là je parle pas forcément de sexualité partagée, mais notre sexualité avec nous-mêmes. Je trouve que les femmes, nous avons à explorer notre sexe, nous avons à en prendre soin tous les jours. Alors moi je recommande l'huile de calendula, mais effectivement l'huile de coco fonctionne très bien aussi, mais nous avons à rendre vivante cette partie de notre corps, à ne pas l'abandonner, à ne pas l'oublier, parce que beaucoup de sécheresse vaginale, alors pas toutes, parce qu'il peut y avoir probablement des pathologies, mais en tout cas, habiter son sexe régulièrement, en prendre soin comme on prend soin de sa peau, c'est hyper important.
On passe une page musicale, on va continuer à vous prendre en ligne, vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions.
Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort ? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vus naître, puis que j'ai vus mourir. J'ai tellement porté de deuil que j'en ai les idées noires. Je suis là que je me prépare, je choisis mon cercueil, mais le docteur me répète, visite après visite, que j'ai une santé parfaite, il est là qui me félicite. J'ai vu la première guerre, le premier téléphone. Me voilà centenaire, mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort ? Qu'est-ce que j'ai pas fini ? Qu'il faudrait que je finisse ? Perdre un dernier ami, enterrer mes petits-fils. J'ai eu 100 ans hier, ma place est plus ici. Elle est au cimetière, elle est au paradis. Si je méritais l'enfer, alors c'est réussi. Car je suis centenaire et je suis encore en vie. Moi je suis née aux chandelles, j'ai grandi au charabon. Bien sûr que je me rappelle du tout premier néon. J'ai connu la grande crise, j'allais avoir 30 ans. J'ai connu les églises avec du monde dedans. Payés à la semaine. Elle parle un langage qui ne sera jamais le mien. Ça me fait du chagrin d'avoir 5 fois leur âge et 1000 fois leur fatigue, immobile à ma fenêtre, pendant qu'elle navigue tranquille sur Internet. C'est vrai que j'attends la mort, mais c'est pas que je sois morbide. C'est que j'ai 100 ans dans le corps et que je suis encore lucide. C'est que je suis avide, mais qu'il n'y a plus rien à mordre. C'est que mon passé déborde et que mon avenir est vide. On montre à la télé des fusées qui décollent. Est-ce qu'on va m'expliquer la mort.
Et oui, encore la grande poétesse Linda Lemay qui nous parle de quelqu'un de 100 ans qui est, n'est pas encore ménopausé. Non, je plaisante. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, radio coachée.
Bonjour Delphine.
Ah, bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir. Oh, quelle énergie, quelle voix énergique.
Ah oui.
Ah oui, vous avez la patate voix. Alors, vous êtes, bienvenue sur Dynamique Radio. Nous aussi, on est dynamique, hein. Dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Vous savez que nous parlons de ménopause aujourd'hui et que notre invité,
oui,
c'est Pascaline Lombroso. On a cette chance. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Pascaline?
Alors, moi, j'aimerais poser, moi, j'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur. Pendant quasiment un an. Alors quand je dis beaucoup, c'est une toutes les 5 minutes, hein. C'était à ce point-là.
Ah oui.
Là, ça s'est un petit peu calmé depuis 6 mois.
Ouais.
Et je voudrais, alors ça, c'est un peu plein de choses autour des bouffées de chaleur, parce que je me dis pourquoi on a des bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y a des tempéraments qui en génèrent plus que d'autres? Et en fait, pourquoi? Parce que moi aujourd'hui, par exemple, j'ai des bouffées de chaleur plus systématiquement quand je vais me coucher, quand je m'endors en fait. et systématiquement quand je me réveille.
Parce qu'elle est vraiment les bouffées de chaleur, donc c'est vraiment un symptôme de la ménopause.
Ah oui, c'est l'inconfort le plus redouté d'ailleurs, je crois, enfin un des plus redoutés. Et il y a plein de facteurs qui font que nous pouvons avoir des bouffées de chaleur. En plus, il faut savoir que nous ne sommes pas toutes égales face au fait d'avoir des bouffées de chaleur ou pas. Il y a un facteur génétique qui est que nous ne métabolisons pas ni n'évacuons pas les œstrogènes toutes de la même manière.
Les œstrogènes, pour nos auditeurs ?
Qui sont les hormones féminines en lien avec les ovaires.
D'accord.
Et en lien avec l'ovulation.
Et c'est ça qui génère les bouffées de chaleur ?
Alors, ce qui peut générer des bouffées de chaleur, ce n'est pas forcément les œstrogènes.
D'accord.
Ça peut être, au moment de la préménopause, trop de... d'œstrogènes qui vont se retrouver en circulation. Donc ça, oui, ça D'accord. peut générer des bouffées de chaleur. Mmh. Mais il y a plein d'autres choses. Je disais tout à l'heure que le système hormonal est très sous l'influence du système nerveux. Donc dès qu'on s'agite un peu trop, dès qu'il y a du stress, il peut y avoir des bouffées de chaleur. Il faut repérer aussi dans l'alimentation ce qui peut causer les bouffées de chaleur. Par exemple, quand il y a trop de sucre, trop de gras ou bien des plats trop épicés, ça peut générer aussi des bouffées de chaleur. Donc il y a plein de facteurs. Alors, la constipation aussi peut générer des bouffées de chaleur, tout simplement parce que lorsque nous sommes constipés, ça stagne et donc les œstrogènes sont censés être évacués avec les selles et donc ben, ils peuvent être remis en circulation s'il y a de la constipation. Au niveau digestif, un foie trop chargé, eh bien pareil, il ne va pas transformer les œstrogènes pour qu'ils soient évacués, ça va repasser dans le sang. Donc il y a plein de facteurs qui font qu'il peut y avoir des bouffées de chaleur.
Ça vous parle comment tout ça, Delphine?
Ah ben ça, je me dis que j'ai tout faux.
Oh, pourquoi vous dites ça?
Non, quand je dis tout faux, c'est-à-dire que oui, ça me parle. Mais alors, vraiment, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, en fait.
Ah oui.
Alors, quand je dis que j'ai tout faux, c'est-à-dire que je mange très sucré et effectivement, je suis constipée. Donc ça expliquerait peut-être le pourquoi du comment.
Ah oui.
Parce que c'est vrai qu'en général, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui mange sainement, qui a une activité physique, etc. Moi, c'est vraiment le truc, l'inconfort, là, comme dit Pascaline, qui à part ça, moi, j'ai rien d'autre. Hein. Tout va bien dans ma vie. mais effectivement, par contre, j'ai arrêté le café. Je sais pas s'il y a un truc. Et depuis que j'ai arrêté le café, ça va vachement mieux.
Arrêter le café, Pascaline.
Oui, parce que ça fait partie des excitants. Donc, la même manière que trop de thé, trop de café ou bien trop de soda très sucré ont bien sûr une influence, peuvent avoir. Alors, je dis ont bien sûr, mais c'est plutôt peuvent avoir chez certaines femmes une influence sur les bouffées de chaleur.
Alors, les bouffées de chaleur, Irène, c'est vrai que beaucoup de femmes, on entend beaucoup de femmes s'en plaindre hein, quand même dans votre cabinet. Vous avez déjà entendu parler de femmes.
Certaines s'en plaignent et puis d'autres le vivent comme aussi, je me souviens, peuvent même très bien le vivre. Je me souviens que j'avais travaillé avec une femme justement à transformer ça quand elle le vit, d'avoir un ancrage positif et ce qui lui est venu à elle, c'était de dire voilà, quand j'ai c'est des bouffées d'amour et je ressens du chaud et c'est bon. Et c'est aussi cette question de bien le vivre. Il y a aussi cette question où quand il y a ces modifications de l'organisme et qu'il y a des causes qui sont aussi physiologiques par l'alimentation, par peut-être la régulation du stress, c'est aussi une occasion de là encore prendre soin de soi et de se dire à 20 ans on peut manger du McDo tous les jours et c'est pas très grave, on n'a pas tout de suite les conséquences. Là, c'est aussi l'occasion, en prenant de l'âge, c'est aussi l'occasion de prendre mieux et plus soin de soi.
Prendre plus soin de soi, je crois vraiment que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Prendre soin de soi, ça me fait penser à cette phrase de Confucius. C'était la journée contre l'obésité il y a quelques jours. Confucius disait « Prenez soin de votre corps parce que c'est le véhicule où votre âme a choisi de vivre et de passer ce voyage. Donc plus vous allez prendre soin de votre corps, plus votre âme sera heureuse d'y vivre et donc peut-être d'y vivre longtemps. C'est pas rien, on devient de plus en plus obèse, on a vu qu'il n'y a pas assez de gens qui font du sport. Peut-être que Pascaline va nous éclairer là-dessus. On ne vit pas forcément sa ménopause certainement de la même façon si on est très sportive, moyennement sportive ou pas sportive du tout. L'alimentation, il y a de beaux passages et des beaux chapitres là-dessus dans votre livre aussi. Il y a différentes alimentations, n'est-ce pas, Pascaline? Mais vraiment, prenez soin de vous. Ça passe aussi par prendre soin de son corps, n'est-ce pas, Pascaline Lombroso? Prendre soin de son corps.
Ouais. Moi, je dis que mon corps, c'est pas un plan B. C'est le temple que j'ai pour vivre sur cette vie-là maintenant. Et donc, c'est la priorité, en fait. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup tiré sur la corde du système nerveux, de l'épuisement physique. Et je sais quelle valeur il a, mon corps. Aujourd'hui. Et alors, c'est vraiment une priorité.
C'est important parce que vous parliez de la sexualité et même de l'auto-érotisme, de la sexualité avec les huiles et tout ça. Mais moi, je me dis souvent, mais c'est vrai, c'est intéressant. La sexualité d'une femme 50 ans, c'est pas forcément la même sexualité qu'une femme de 40, de 30, de 20. De la même façon pour un homme, hein, j'entends, mais pour un couple aussi. Je veux dire, il y a des saisons du couple. Il y a un couple d'un an, c'est pas un couple de 3 ans, c'est pas un couple de 5 ans, c'est pas un couple de 15 ans, de 20 ans. Et volins nonas, si on est en couple depuis longtemps, quand la femme arrive à la ménopause, l'homme, si c'est un couple qui a duré, hein, tous les couples ne sont pas durables, mais si c'est un couple qui a duré, est-ce que ça peut être, alors, de deux possibilités, un redémarrage de la sexualité ou alors une sexualité qui est plus dure, enfin je ne sais pas, parce qu'elle est nombroso.
Eh bien, ça dépend de comment la femme a envie de vivre cette sexualité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se cacher derrière les inconforts de la ménopause pour ne plus avoir de sexualité, parce qu'elles n'ont plus envie de consentir à des choses qu'elles ne veulent pas, par exemple. Et moi, je trouve que ce moment-là de la ménopause, c'est un temps où la femme peut se réapproprier sa sexualité, où elle peut vraiment définir et dire ce qu'elle veut. Et dans le couple, si le couple est là depuis suffisamment longtemps, je pense que ça peut vraiment être un renouveau. D'accord. Un renouveau dans la sexualité.
Delphine, donc oui. vous êtes dans la ménopause, vous êtes en train de la traverser ou c'est fini ou
Alors bah moi comme je disais j'ai eu ça y est hein, moi c'est terminé. Donc ouais. je vais suivre un peu comme dit Pascaline, faut dire qu'on a été ménopausée à 50 ans donc maintenant c'est ma nouvelle vie qui commence.
Et vous êtes voilà. En couple ou
moi en fait voilà c'est marrant de vous entendre. Alors je voulais rebondir par rapport à ce que la personne a dit avant,
Irène Cazenave, ma co-animatrice voilà. Hypnothérapeute.
Et en fait, je trouve que c'est tout à fait juste. En fait, peut-être que j'ai aussi changé ma vision comment j'accueillais en fait les bouffées de chaleur. Oui. Et du coup, j'ai transformé ma vision en fait. Et du coup, maintenant, quand j'en ai une, je la prends plus du tout de la même manière. Je l'accueille en fait. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus.
D'accord.
Alors, au niveau de la sexualité, moi, peut-être, je suis pas. En fait, comme je suis pas en couple depuis 30 ans. Je suis peut-être un mauvais exemple.
Non, mais peu importe. Vous êtes en couple depuis peu de temps, c'est ça ?
Moi, ça n'a... Non, en fait, moi, je suis avec un compagnon depuis 17 ans, mais on ne vit pas ensemble. Mm-hmm. Et là, pour le coup, pour moi, ça n'a rien changé. Je dirais... Enfin, je ne suis pas plus ou moins. C'est tout va bien de ce côté-là, quoi.
Bon.
Voilà. Mais peut-être que quelqu'un qui vit avec quelqu'un, c'est peut-être un peu différent comme situation.
Oui, enfin bon, ben voilà. Donc Irène, la sexualité d'une femme de 50 ans, par exemple, elle est très variable. On sait très bien, les études l'ont prouvé, que c'est complètement variable, ça dépend de l'être humain.
Mais après, c'est variable d'une personne à une autre, d'une part. Et puis, il y a cette question dont parle beaucoup Pascaline, c'est un moment de se réapproprier son corps et de faire des choix. Et il y a un moment où faire un choix, ça peut être... faire un choix effectivement de ne plus avoir une sexualité, moi le mot qui me vient c'est désolante.
Désolante.
Oui, mais avec un partenaire pas très à l'écoute ou des choses qui ne convenaient pas. Il peut y avoir aussi un choix comme ça qui n'est pas un véritable choix, mais de dire un peu stop, j'ai mal, je peux plus, c'est plus de mon âge, etc. Et en même temps, il peut aussi y avoir un choix de dire... je suis enfin libre, je vais pouvoir et enfin libre parce que plus dans l'archétype de la mère et je vais pouvoir aussi m'amuser. Il y a certaines femmes de la cinquantaine qui parlent de nouvelle adolescence avec c'est Florence Foresti
oui,
par
on
exemple.
On parle même des quinquados.
Des quinquados, voilà, nouvelle adolescence avec une carte bancaire. Donc il y a plein de, il y a aussi ces mouvements-là qui donnent lieu à une plus grande liberté et c'est comment on est en capacité de choisir à certains moments cette
Pascaline,
liberté-là.
Une libération sexuelle.
Ouais, et je trouve aussi que les femmes, il faut qu'elles aient le choix de se sentir libres, de décider de ce qu'elles veulent pour elles. Mais il ne faut pas que ce soit un choix par défaut, c'est-à-dire de se dire là, j'ai plus envie parce qu'avec mon mari, ça ne se passe pas bien, donc je dis non et j'arrête. Ok, elle peut très bien ne plus avoir envie avec son mari, mais en revanche, il ne faut pas qu'elle s'abandonne elle-même. Je trouve qu'elle a quand même à aller explorer la sexualité parce que c'est une source de vitalité. Et je trouve qu'à partir de la ménopause, c'est une source de vitalité dont on n'a pas à se priver. Donc, qu'elles aient le choix de faire ce qu'elles veulent avec leur sexualité, mais en tout cas, la sexualité avec soi-même, ça, c'est à cultiver.
Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, à un moment donné, il y a un passage où vous citez une grande dame, que je cite aussi dans un de mes livres d'il y a très longtemps, Le couple haute qualité relationnelle, c'est Christiane Singer, et cette dame qui est partie maintenant faire son dernier voyage, mais qui était vraiment une très grande dame, qui a écrit des très beaux livres, et notamment, chers amis auditeurs, je vous conseille Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, qui est vraiment un très, très, très joli livre, sur l'idée qu'on est d'ailleurs dans une période qui a empiré, hein, elle est morte maintenant en 2008, Christiane Singer, paix à son âme, mais l'idée de l'engagement, chers amis auditeurs, en couple et dans la vie amoureuse est de plus en plus difficile, on le voit bien avec les jeunes générations, même les moins jeunes, s'engager les gens, c'est pas simple. Le docteur Leleu parle de séparation Kleenex. Voilà, s'engager dans la durée, c'est quelque chose qui est questionnant pour notre époque. On va vous embrasser, Delphine. Merci d'avoir participé à l'émission.
Oui, vous pouvez redire, parce que j'imagine que si j'ai pas eu le temps de noter les auditeurs, oui, non plus, c'est quoi votre livre, L'éloge de.
Ah, le livre de Christiane Singer. Le livre de Christiane Singer s'appelait Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies.
D'accord.
C'était vraiment une très grande dame, vraiment.
Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a, sur l'accompagnement, enfin, je trouve que c'est, je ne vais pas dire à 100%, mais le partenaire qu'on a en face de soi, et s'il accueille notre ménopause en même temps que nous, voilà, je pense que ça joue vraiment beaucoup. Bah, écoutez,
sûr.
Merci beaucoup.
Merci, on vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Bon,
bonne journée, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Alyosha Schneider, ensemble, c'est un petit bijou. Mesdames, vous êtes d'accord?
Absolument.
C'est magnifique.
Magnifique. Ouais. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, radio coachée.
Bonsoir, je crois que c'est Laura. Hein, Laura?
Oui.
Enchantée, Laura. Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Cotier. Vous Merci. Savez que notre invitée centrale, c'est Pascaline Lombroso, qui nous offre ce magnifique livre Ménopause, Métamorphose. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question à Pascaline, Laura?
Alors, merci déjà de pouvoir me permettre de poser une question à Pascaline, parce que je suis en ce moment dans une des grandes réflexions par rapport à la périménopause. Ah. Et j'ai un dilemme important qui est, est-ce que je dois prendre un traitement ou pas? Pas est-ce que je dois, mais comment je peux prendre la décision de je prends un traitement ou j'en prends pas? Et si je décide de pas en prendre, eh ben, quelles sont les solutions hors médicamenteuses qui peuvent être proposées ou que je peux appliquer?
Pascaline, traitement, pas traitement? Alors, faut peut-être en savoir plus.
Alors, c'est une décision qui est très, très personnelle. Mmh. Et donc, il faut savoir que le traitement hormonal de la ménopause, seuls les médecins peuvent le prescrire. Qu'il peut être intéressant dans certains cas de femmes qui ont beaucoup, beaucoup d'inconfort et qui n'arrivent pas du tout à réguler ça de manière naturelle. Donc, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas ni pour ni contre le traitement. Je dis juste qu'il faut...
Mais qu'est-ce que c'est le traitement, alors?
Mais en fait, ce sont des hormones qui viennent remplacer, qui viennent imiter, en fait, les œstrogènes. Donc, certaines parlent de traitement substitutif de la ménopause, mais en réalité, à la ménopause, les œstrogènes ne sont plus sécrétés par les ovaires.
Oui, continuez.
Les œstrogènes ne sont plus sécrétés par les ovaires. Et donc, on donne des hormones de synthèse pour remplacer, pour imiter, de manière à ce que le corps continue comme s'il n'y avait pas d'arrêt.
D'accord. Et ça, ça peut aider.
Ça peut aider. Ouais. Maintenant, donc là, je le répète, c'est une décision qui se prend avec son gynécologue. Il y a un suivi qui doit être fait de manière très régulière parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, que ce n'est pas adapté à toutes les femmes.
Ça peut être quoi, les effets secondaires, Pascaline?
Eh bien, ça peut être des apparitions de kystes, par exemple, dans les seins. Ça peut amplifier des problèmes d'humeur, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu que ça règle le problème, ça peut amplifier le problème. Donc, c'est pour ça que c'est très individuel et c'est à discuter avec son médecin. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi très régulier, je crois que c'est tous les 6 mois, pour lorsque la femme décide de prendre un traitement hormonal.
Ça vous fait écho comment tout ça, Laura?
Moi, ce qui est intéressant, c'est que... mon médecin, il a une approche qui est particulière. Déjà, c'est un homme.
Oui.
Et il me dit, moi, c'est
parce
que...
C'est pas
de sa faute. Non, mais je vais dire ça parce que ça me fait rire, parce que j'ai des troubles de l'humeur, en fait. J'ai énormément de troubles de l'humeur avec des ascenseurs émotionnels en haut, en bas. Je lui dis, mais est-ce que vous pensez que ça peut être la périménopause? Et il me répond du tac au tac. Alors, écoutez, vous, les femmes, à chaque fois que ça va pas bien, c'est les hormones. D'accord.
Bon. On sent décidément, c'est l'émission des médecins.
Médicales, ouais.
C'est l'émission des médecins, là. Ceci dit, bon, vous savez, l'autre fois, j'ai donné une conférence à l'hôpital Purpan sur ma méthode. Et comme je parle de la relation, moi, je suis un médecin des relations, vous avez compris un petit peu, Laura.
Ouais.
Et il m'avait appelé la conférence décalée. Donc, je suis très content de savoir qu'en 2023, c'est l'année dernière, la relation, encore patient-médecin ou avec la famille, c'est encore décalé en médecine en 2023, chers médecins, pour vous dire où on en est en médecine. Et quand je dis dans certains de mes livres qu'on est au Moyen-Âge relationnel, je pèse mes mots. Hein. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc encore un médecin
ça,
qui vous parle avec des messages toxiques. On avait avec Pascaline et Irène tout à l'heure un autre médecin qui était aussi, comme dirait mon ami Alex Lutz, à pas piquer des hannetons. Voilà. Bon, et alors, qu'est-ce que vous lui avez rétorqué, alors?
Pour être très honnête, je lui ai dit, je suis venue pour rien, du coup.
Je vous dois combien, docteur?
C'est ça, mais alors il m'a dit, on va quand même faire une échographie pour voir si le stérilet il est bien mis. J'ai dit, je serais pas venue pour rien. Voilà.
D'accord, c'est une histoire de stérilet mal mis. C'est souvent ça, vous savez, hein, c'est souvent le stérilet mal mis. Hein,
mais en plus, j'ai de l'affection. De l'affection pour lui, mais je me suis dit, j'ai pas de réponse à ma question.
Vous allez peut-être avoir un retour de ma co-animatrice hypnothérapeute Irène Cazenave. Écoutez bien, Laura, d'accord? Irène.
Oui, alors il y a souvent, quand il y a une méconnaissance comme ça, soit parce que, une méconnaissance ou des idées toutes faites, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, il y a deux réponses qui arrivent souvent qui ne sont pas forcément très aidantes. Alors, soit c'est pas je ne sais pas, c'est ça n'existe pas, soit c'est dans la tête, soit, et là on a le nouveau, c'est c'est les hormones, mais c'est parce que vous êtes une femme. Il y a vraiment cette question de pouvoir informer aussi, parce que les médecins, ils sont aussi surmenés. On les tacle un petit peu ici, mais on sait aussi qu'ils sont surmenés, qu'ils ne sont pas du tout formés à ces questions-là non plus, que la réponse qu'ils ont quand c'est une réponse, c'est une réponse médicamenteuse avec énormément de... j'ai envie de dire de bémol, parce que les hormones, ça, c'est aussi cette question de où on a beaucoup pris la pilule, enfin, où les femmes ont beaucoup pris la pilule, oui. Où c'est une avancée fabuleuse et en même temps énormément d'effets secondaires. Donc il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Déjà, se remettre les choses dans leur contexte en tant que, c'est encore les enjeux d'estime de soi, se dire ok, il est médecin, mais c'est pas son domaine de compétence, d'accord, ok, ça veut pas dire que d'autres médecins ne seront pas compétents. Peut-être qu'ils sont moins nombreux, mais il peut y avoir des médecins un petit peu plus affûtés et plus compétents. Et puis peut-être qu'il y a d'autres méthodes dont parle Pascaline.
Parce que Pascaline, vous êtes naturopathe, vous faites un travail aussi autour de la médecine chinoise, de la tradition chinoise. Bon, tout ça, c'est très décrié en France, on est d'accord. On a du mal, on est un pays très classiciste. Je veux dire, c'est la querelle des anciens et des modernes. Hein. On a bien vu qu'ils ont voulu dérembourser l'homéopathie. Et ça fait un fracas terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas. Est-ce que ça l'est ou pas d'ailleurs maintenant dérembourser l'homéopathie?
Oui.
C'est passé, la loi est passée. Bon, voilà, j'entendais l'autre jour le comique Jérémy Ferrari qui est reconnu comme un comique qui met toujours les pieds dans le plat et très provocateur, que ce soit en politique ou n'importe quoi. Il a fait son dernier one man show, c'est sur le médical. Hein, et donc il disait que c'était incroyable parce qu'il ne s'attendait pas. Il avait fait un truc sur les djihadistes, le spectacle d'avant, et là il s'attendait pas que un des sketchs qui a le plus soulevé de tollé, chers amis auditeurs, c'est lorsqu'il a descendu en flamme l'homéopathie. Et il s'est fait, mais vraiment, houspiller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Je suis pas violent au sens croyance, au sens est-ce que c'est une croyance ou est-ce que ça n'est pas. Je suppose que vous êtes intéressé à l'homéopathie, vous?
Oui, j'en ai eu pris, mais c'est vrai que c'est pas la principale chose que j'utilise en tout cas.
Vous utilisez plutôt les plantes, vous?
Oui, les plantes, les huiles essentielles. Mais en vrai, je suis pas souvent malade, donc j'ai envie de dire que le mode de vie, par l'alimentation, aide aussi. Prendre soin de son système nerveux, ton système digestif,
ça aide. Vous dormez bien en plus?
J'essaye de bien dormir, oui. Je mets toutes les conditions de, j'ai envie de dire, du bon côté pour
Et vous, Laura, vous dormez comment? Est-ce que vous faites partie des 4 Français sur 10 qui dorment très mal? 40% des Français dorment mal, c'est une vraie épidémie, vous savez, selon l'Institut
national. Moi, j'ai eu la chance de toujours bien dormir, sauf justement depuis quelques temps où j'ai des réveils nocturnes, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai eu plein de signes différents qui font que j'ai commencé à m'intéresser à la ménopause et à la périménopause, parce que en plus des sautes d'humeur dans une journée, c'est vraiment les montagnes russes. J'ai jamais eu ça. Problème.
Vous allez
de
rester
sommeil.
Avec nous. On va oui. Vous garder, d'accord. On va continuer parce qu'il y a des chapitres qui ont à voir avec votre demande. Vous pouvez rester encore 2 minutes avec nous.
Oui, bien sûr.
Restez
bien sûr,
en
avec
ligne.
Plaisir,
on passe une page musicale et on va continuer à échanger avec vous. C'est passionnant.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi? Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. J'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon livre sous le vent, les portes, les centres et les cris, même enfermant.
possible aux chants d'embattre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, que les armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer.
La grande, la belle Céline Dion, si nous permet de lui faire un petit coucou, elle qui va pas très bien dans son corps justement, et notamment depuis que René est parti comme par hasard. Vous êtes toujours avec nous, Laura?
Oui, je suis là.
Justement, vous savez, on est sur ce sujet et on égrène pas mal de chapitres du livre Ménopause, Métamorphose, du formidable livre de Pascaline Lombroso, collection Hachette. Et qui est vraiment très holistique. On en parlait avec Irène Hoff avant qu'Irène arrive dans nos studios. Vous savez, à un moment donné, elle parle de la capacité de gérer ses émotions, justement. Vous voyez, Laura. Et on sent, vous, en ce moment, il y a peut-être, à cause de tout ça, cette histoire de péril, de difficulté de gérer certaines de vos émotions. On est d'accord, hein?
C'est ça, exactement.
Voilà. Alors, j'aimerais justement qu'elle nous éclaire là-dessus. Pascaline, l'histoire de gestion de ses émotions. Pascaline Lombroso.
Alors, si je peux me permettre, je pense que je n'ai pas utilisé ce terme dans mon livre. Ne parle jamais de gérer ses émotions,
je
de
parle
gestion des émotions, parce que je trouve que ça nous ramène encore à quelque chose qu'il va falloir contrôler.
Ouais.
Je parle d'apprivoiser ses émotions, c'est-à-dire déjà de reconnaître ce qui se passe pour soi, et ensuite de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, bien sûr qu'il y a tout un travail de régulation du système nerveux, d'ailleurs, qui n'est pas forcément pour calmer, mais pour mieux comprendre ce qui se passe pour soi et y donner la meilleure réponse, la meilleure ressource qu'il peut être possible de faire. Donc, bien sûr qu'il y a plein de techniques au niveau de la respiration. Je trouve que la respiration, c'est notre, je dirais, c'est le moyen que nous avons à disposition en plus pour pouvoir un peu faire baisser la cocotte minute. Donc déjà, toute la respiration, tous les étirements du corps, il est hyper important de s'étirer, les automassages notamment de la nuque et du haut du corps, parce qu'il faut savoir que
c'est un grand endroit de stress.
Et voilà, il y a énormément de tension dans cet endroit-là. Donc, n'est pas hésiter à faire des automassages et tout simplement prendre soin de son corps. Et on donne l'information à notre corps que nous sommes en train de prendre de lui. Parce qu'en réalité, que ce soit le stress, que ce soit le système nerveux, que ce soit les émotions, c'est dans le corps que ça va passer. Ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe vraiment dans le corps. Donc, revenir dans le corps, les automassages, tous les étirements intuitifs peuvent être faits. Donc, ça peut être s'étirer l'avant du corps, tout ce qui peut faire du bien.
Et on peut pratiquer même des activités comme le qigong, par exemple, ou le yoga, oui, des choses comme ça, et que ça fait du bien. Parce que
si
ça
ce n'est que, par exemple, le qigong, quand on ne va pas bien, ça peut énerver au départ plutôt que,
Moi, j'adore
que
le
calmer.
Qigong.
Et oui, j'adore. Mais je trouve qu'il faut déjà être bien, quoi.
Ouais.
Après, ça dépend de chaque personne. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne, si je leur parle de qigong ou de méditation, elles vont me dire, non, mais là, c'est pas possible, parce que m'asseoir et écouter les battements de mon cœur qui vont très vite, ça me rend encore plus anxieuse que de pas le faire. Donc, moi, ce que je propose, c'est de passer par le corps en s'étirant, en se secouant, en bâillant, en s'automassant. Voilà, on revient dans le corps. Et après, on peut explorer, effectivement, le yoga, le qigong, la méditation, pourquoi pas, le pilates, il y a plein de... ou le sport, en fonction de ce que nous aimons faire.
Et en fonction de l'énergie qu'il y a, parce qu'effectivement, quand on est en état de... en état de stress, tout ce qui est trop calme et trop loin de notre état, c'est extrêmement compliqué. Ça peut être encore plus anxiogène et encore plus stressant de dire ah, « j'arrive pas ». Alors que c'est juste que c'est un moment où on est trop loin de cet état-là. Donc c'est de voir aussi, c'est là encore l'accueil de l'état dans lequel on est et d'adapter l'activité plutôt que de s'adapter à une activité, d'adapter l'activité à là où on en est.
Ça vous parle comment tout ça, Laura ?
Ça me parle énormément, le fait d'adapter l'activité par rapport à là où on en est. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le yoga, par exemple.
Oui.
Et en ce moment, j'en fais pas.
Et pourquoi ?
En ce moment, j'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à me poser. Donc, ce que vient de dire Irène, ça me parle énormément. J'arrive pas à me poser. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un peu de cohérence cardiaque le matin au réveil parce que j'ai des angoisses monumentales quand je me réveille. Donc, ça passe. Et ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que j'ai besoin de mouvement. Donc, je fais plus des exercices de musculation. De musculation très douce à la maison avec des petites haltères et tout, mais le yoga m'appelle pas, je me vois pas me faire 30 minutes, 45 minutes de vide, de calme, parce que c'est pas le calme dans ma tête.
Oui, donc mais il y a autre chose qui peut être pas mal. De toute façon, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, vous savez, Laura, qui dit « Il existe plusieurs voies pour arriver en haut de la montagne, mais arriver en haut, tous contemplent la même lune. » Ce qui est intéressant de savoir, c'est que d'une certaine manière, chacun va trouver des techniques. Si elles lui correspondent, elles lui parlent, ça va le calmer, ça va l'apaiser, ça va l'aider à rendre sa vie plus joyeuse, plus calme, plus apaisée. Le bonheur, après, voilà, et c'est à la porte de chacun. Chacun trouve son bonheur. Mais ce qui est sûr, c'est que le bien-être, déjà, se sentir bien dans son corps, elle le disait, parce qu'elle est tout à l'heure, et dans sa tête, c'est déjà une forme de bonheur, je peux vous dire. Parce que les gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ne sont pas bien dans leur corps, qui ne sont pas bien dans leurs émotions, qui ne sont pas bien dans leurs pensées, hein, n'oubliez pas aussi qu'elle parlait du système nerveux. Il y a différentes ondes du système nerveux. Maintenant, on le sait, les neurosciences nous apprennent encore plus de choses là-dessus. Si effectivement on est en onde bêta toute la journée, ce n'est pas en onde bêta qu'on va passer une bonne nuit, vous comprenez ? Il faut descendre en onde alpha. Et pour ça, vous parlez, vous avez des chapitres là-dessus, hein, sur la méditation, Pascaline, de travailler aussi. Simplement, faire un sas avant de s'endormir et d'arrêter, chers amis auditeurs. Franchement, ça, c'est une des clés. Mais moi, je dis même à des stagiaires à longueur de stage, j'ai osé le dire, c'est moi quand même l'auteur de « On est foutu, on clique trop » il y a 2 ans, zéro écran dans votre chambre. Votre chambre doit être un lieu de mini digital détox. Alors, ils forcent tous des cris d'orfraie. Mais non, on a la télé devant le lit. Mais non, on a notre ordinateur portable. Mais non, monsieur est gamer. Mais arrêtez! La chambre est un sanctuaire. Il ne doit pas, on ne doit même pas amener son téléphone portable. Ah oui, comment je fais pour un réveil? Ben, t'as pas besoin de ton portable. T'as pas besoin de ton téléphone portable. Donc, déjà, une demi-heure avant de dormir, minimum, pas d'écran. Pas d'écran. Parce que l'écran, ça excite. Ça a été étudié. Il y a la lumière bleue. Vous voyez ce que je veux dire, Pascaline ? Et je parle à tous les auditeurs là, hein, de l'émission, pour l'émission, pas que pour vous du tout. Hein. Mais comment voulez-vous ? La nuit, c'est yin. La nuit, c'est noir. La nuit, il faut du calme. La nuit, il faut du féminin. Or, tout ce dont on est en train de parler juste avant, c'est du yang. C'est du yang. Les écrans, c'est yang. Les games, c'est yang. Les applis, c'est yang. Les réseaux sociaux, c'est yang. Même un livre de développement personnel ou de psycho, n'importe quoi, c'est yang. Je conseille à tous mes stagiaires, moi j'adore lire, dormir, souvenir de Kang, lisez du yin. C'est-à-dire, lisez du roman, de la fiction, ou une pièce de théâtre, ou un poème. Oui, ça, c'est féminin, ça va vous emmener vers l'endormissement. Pourquoi ? Simplement parce que c'est yin. Ça vous parle, tout ça, Laura ?
Alors ça, alors les écrans, oui. Par contre, la lecture et le yin et le yang, je trouve ça très intéressant sur cette dimension-là. Je la connaissais pas. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Je
de
lis
la
le
fiction.
Soir.
Lisez de la fiction.
Ben là, je lis de la philosophie en ce moment.
Non, c'est yang. Voilà. C'est yang.
Ah,
c'est yang. Hegel, Schopenhauer, Onfray.
Non,
c'est
je lis Charles Pépin.
Mais oui, mais Pépin, mon pote Pépin, c'est de la philo. Il est génial. Hein. Mais c'est yang.
Ah,
c'est yang parce que ça vous fait travailler des zones, Irène, on sait plus que nous là-dessus, elle est hypnothérapeute, des zones du cerveau qui ne sont pas des zones. Vous voyez, ça vous fait réfléchir, la philo.
Ah, tout à fait.
Donnez-vous rendez-vous, tiens, achetez le nouveau Funkinos qui s'appelle La vie heureuse, d'accord ? Lisez le dernier prix Goncourt parce que vous avez rendez-vous tous les soirs avec un nouveau chapitre du roman que vous êtes en train de lire. Et je peux vous dire, ça va vous donner envie d'aller vous coucher. On va vous embrasser. Merci.
Ben, merci beaucoup.
Merci Laura.
À vous,
merci d'avoir participé à l'émission. À très bientôt.
Longue vie à l'émission. Au revoir.
Merci, vous êtes adorable. Ça me touche. On va continuer avec Pascaline. parce qu'il n'y a plus de musique, je crois. Hein, il nous reste qu'un petit moment pour continuer avec vous. Parce que ça va, vous passez un bon moment avec nous.
Très bon moment.
Nous aussi,
très
on passe
agréable.
Un moment vraiment délicieux. Vous avez peut-être un feedback à faire, Irène, à Pascaline, quelque chose qui vous est venu à l'esprit au fil de ces dernières minutes.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je trouve déjà extraordinaire d'avoir fait ce livre, de parler complètement différemment de la ménopause. Quand je dis différemment, c'est que soit on n'en parle pas, c'est un peu honteux, c'est un peu caché, soit on en parle sous le prisme uniquement des désagréments qui peuvent y être liés, et que ça remet aussi de la lumière sur les femmes, je sais même pas quel terme employer, mais on va dire sur les femmes en deuxième partie de vie, où on sait que dans le cinéma, il y a le tunnel de la femme de 50 ans, où il n'y a plus une seule femme à partir de 50 ans sur nos écrans. Donc il y a vraiment cette question de remettre de la lumière sur les femmes dans leur plénitude.
C'est très beau ce que vous dites, Irène. En fait, la femme de 50 ans, même ménopausée, est instagrammable. Je plaisante. Parce que
mais
c'est vrai qu'il y a cette
certaines
culte.
Sont absolument, absolument sublimes. Oui, il y a plusieurs comptes, pas tellement de. Il y a quelques françaises qui se font connaître justement comme ça, ou comme si les gens devaient redécouvrir que les femmes de 50, 60, 70 ans, 80 ans peuvent être magnifique, et il y en a à tous les âges. Donc Instagram permet aussi ça. Donc oui, mais il y a encore besoin de le dire.
Pascal et Nombroso.
Moi, je trouve que ce qui manque cruellement aujourd'hui dans la société ou même sur les réseaux, c'est une diversité de propositions, une diversité de choix. Parce qu'effectivement, il y a plein de comptes qui parlent de la ménopause et notamment qui parlent de la ménopause comme vous le dites, Irène, c'est-à-dire, voilà, il y a les inconforts, qu'est-ce qu'on fait pour ne plus avoir les inconforts? Et je trouve que ça, c'est déconnecter la ménopause de tout notre environnement. C'est la raison pour laquelle, moi, dans mon livre, j'ai voulu aborder différents piliers qui vont venir soutenir l'équilibre hormonal. Et ce qui va soutenir l'équilibre hormonal, c'est ce qui va aussi soutenir l'être dans sa globalité. Donc oui, il faut parler de la ménopause, il faut en parler différemment, il faut amener plein de propositions pour que toutes les femmes puissent s'y retrouver. Et pas simplement, à 60, 70, nous sommes belles, c'est tant mieux, mais on peut aussi avoir le droit de vieillir avec plus de rides, comme on le souhaite. C'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter, c'est que chaque femme puisse choisir la ménopause qu'elle souhaite.
C'est beau. En tout cas, nous, on a été ravis de vous accueillir. On en sait plus. Et j'espère, chers amis auditeurs, que maintenant, vous en savez toutes et tous. Je dis bien même les hommes, parce que les hommes, à travers leur conjointe, mariée ou pas mariée, vivent la ménopause de leur épouse. Voilà. De la même façon qu'un homme vit une grossesse, on le sait. Eh bien, il vit une ménopause. Voilà. On ne comprend pas toujours. Voilà. Alors, ces espèces de clichés, là, heureusement que c'était plutôt nos grands-pères et nos pères. Ça se dit plus, des choses comme ça. Mais messieurs, arrêtez avec tes règles ou quoi. Des choses comme ça, quand une femme est un peu énervée. Je pense que nous, on est largement tout autant irascibles pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément liées aux hormones, mais qui rend l'homme parfois beaucoup plus con que le genre féminin, hein, et donc ça fait de moi un grand féministe, mais tout autant que quand une femme accepte que l'homme reste l'homme, parce que le mauvais féminisme, je sais que là j'ai des vrais féministes purs et durs autour de moi, mais qui ne sont pas des mauvais féministes, ne laisse pas l'homme être un homme. On voit bien à qui je peux faire allusion, ces espèces de femmes qui n'en sont plus tellement d'ailleurs. Donc voilà, c'est la vérité, celle-là, c'est pas le bon féminisme. Quant aux hommes, certains malheureusement, pour diverses raisons, ne sont plus assez des hommes, parce que j'ai assez à côté Arletty, un bonhomme, ça doit être un bonhomme, même s'il a sa part féminine, même si ça pleure aussi un homme. On aurait pu passer cette chanson magnifique de Ginette Renaud, ça pleure aussi un homme, n'est-ce pas, Pascaline Lombroso? Ça pleure aussi un homme.
Bien sûr.
Et c'est beau un homme qui pleure, c'est viril un homme qui pleure.
Non, mais pourquoi ça ne devrait pas pleurer un homme?
Ouais, mais parce que nos grands-pères et nos pères, eux, on les a quasiment jamais vus pleurer parce qu'ils avaient des croyances qui faisaient qu'un bonhomme, ça chiale pas.
Oui, mais
moi, j'ai pas vu
surtout
mon père Péasson a pleurer une fois, ni
c'est
même mon grand-père.
un système de société qui fait ça. Moi, je crois que d'ailleurs, en privant les hommes d'avoir toutes ces émotions, on prive les femmes d'avoir des hommes à côté d'elles qui ont des émotions, des hommes plus sensibles.
Tout à fait. Moi, la première fois que la nouvelle femme de ma vie m'a vu pleurer, elle m'a dit « Mais quel être de lumière tu es ?» J'avais jamais vu un de mes ex pleurer. Et moi, je pleure très souvent.
Mais c'est vraiment des conditionnements. Mais là, je vais reprendre l'expression que j'aime bien, un petit peu triviale, c'est qu'on pleure pas avec nos organes génitaux. Donc, c'est pas genré.
C'est pas genré du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont pas genrées. On a quand même, là, avec la ménopause, eu un thème un peu genré, quand
évidemment,
même, volins dans l'ins. Oui. Mais on a dit que grâce à vos lumières, toute notre gratitude d'être venu à Vivons Coaché, hein, vraiment, on est très heureux. Eh bien, où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux si des femmes veulent faire des séances avec vous, des stages ou des choses comme ça?
Sur Instagram, Pascaline Limbroso, ou sur mon site internet, Pascaline Limbroso également. On me trouve facilement.
Voilà, on vous trouve facilement, ouais. Et on peut prendre rendez-vous avec
tout
vous.
Tout à fait.
Même quand on est un homme. Non, je plaisante.
Je ne reçois plus les hommes en ce moment.
Je ne reçois plus les hommes. En tout cas, toute notre gratitude, Pascaline Limbroso.
Merci à vous.
Il y a ce livre, donc, Hachette. Merci, Irène Cazenave.
Merci.
Merci à Julien, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à toutes et toutes qui ont appelé. On n'a pas pu tous vous prendre, mais c'est comme ça, parce qu'il ne reviendra.
Avec joie.
Voilà. Et ben, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, Vivons Coaché. Jusqu'à présent, n'oubliez jamais, comme le disait Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres.
Pour vivre heureux, Vivons Coaché, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.